Alors après, il y a un autre domaine, en fait, un peu le fil continu de cette dernière partie, c'est de se demander qu'est-ce que le féminisme peut apporter à la crise. Et du coup, le féminisme a quand même eu, comme mouvement historique, cette tendance à revisiter, se réapproprier et transformer des rapports à certaines choses. Donc, comme là, on vient de le voir, au corps et à la santé. Et on voulait parler de la réappropriation qu'il a fait de la peur. Parce qu'on s'est dit qu'en ce moment, c'était quand même un sentiment... assez diffus, quoi. En tout cas, moi ici et les gens avec qui j'ai été confinée, on a été face à ça à différents moments, quoi. Et il y a un mouvement assez fort dans les années 70 qui a émergé et qui a fait face à la menace nucléaire et qui était un mouvement essentiellement porté par des femmes. Et on va appeler une copine qui va nous en parler. Sarah, tu nous entends ?
Salut.
Alors, est-ce que tu veux nous parler un peu du mouvement des années 70 qui a réinventé un nouveau rapport à la peur ?
Ouais, même si c'est plus un mouvement des années 80, on va dire.
C'est bien qu'on ait une spécialiste en fait... autour de la table, parce que
Oui. ouais, en fait, moi, contrairement aux autres copines, c'est pas tant un témoignage personnel que je voulais apporter, mais voilà, un mouvement qui m'a inspirée, c'est les femmes de Greenham Common en Angleterre. Et en fait, c'est des femmes qui, au début des années 80, elles se sont mobilisées contre l'implantation de bases de missiles nucléaires en Angleterre. Et en fait, là où ça recoupe avec cette émission, c'est que le début des années 80, c'est un contexte, je ne sais pas si on pourrait le qualifier de crise, mais en tout cas, où il y a, dans le cadre de la guerre froide, une extrême tension entre le bloc de l'Est et le bloc... de l'Ouest, et où en fait il y a l'OTAN qui décide à la fin des années 70 que s'il y a une guerre nucléaire, elle ne se déploie pas partout, d'implanter un certain nombre de bases militaires dans plusieurs pays d'Europe pour pouvoir envoyer des missiles sur l'URSS. Et du coup, en fait, le contexte de cette fin des années 70, début des années, c'est un contexte où à tout moment peut éclater une guerre nucléaire. Et autrement dit, un contexte de presque possible fin du monde, quoi. Et en fait, dans ce contexte-là, eh ben, y a d'un côté toutes les élites gouvernantes qui vont avoir donné un discours très relativiste, avoir un discours guerrier, de distance objective, technocratique. Et en fait, il y a une femme qui en fait, elle a peur. Elle fait tout un tas de cauchemars de fin du monde. Elle a des rêves atroces sur des enfants qui meurent, sur des guerres qui se déclenchent. Et quand elle raconte ça, à des hommes, et ben en fait on lui renvoie qu'elle a un discours beaucoup trop émotionnel sur cette question de l'implantation de bases de missiles, qui est une question politique, stratégique, guerrière, et que c'est pas possible de se rapporter de manière aussi émotionnelle, sensible à cette question. Du coup, cette femme fatiguée des railleries un peu des hommes, des élites dirigeantes, elle décide de lancer un appel sur une revue féministe de l'époque en Angleterre. Et en fait, elle écrit aux femmes et elle dit « si vous aussi vous avez peur, si vous aussi vous faites des cauchemars la nuit de ce risque de guerre nucléaire, de fin du monde, etc., envoyez-moi vos témoignages ». Et en fait, là, il y a tout un tas de femmes qui vont, une à une, lui envoyer des témoignages avec des cauchemars tous plus horribles les uns que les autres. Et en fait, elles vont prendre conscience du fait que leur impression d'être extrêmement isolées, et qu'en fait, vu qu'il y avait une parole unanime de scientifiques, stratèges, politiciens en face qui étaient très distanciés, elles avaient l'impression qu'elles étaient seules à ressentir. Et là, elles se rendent compte que femme dire ça, et qu'en fait, cette peur, elle est le signe d'un attachement au monde et d'un attachement. Et qu'en fait, elle doit être valorisée dans ce qu'elle signifie d'attachement à ce monde-là. Et du coup, et ça va aussi leur permettre de se rendre compte donc qu'elles sont pas seules, et c'est à partir de là que elles vont se lier et décider se rendre compte qu'elles peuvent avoir prise sur les choses en faisant un appel à... Et donc, partant de cette peur, il y a tout un tas de qui vont se mobiliser, qui vont faire des manifestations, un site d'enfouissement d'implantation de missiles nucléaires, et par leur occupation mettre à mal les travaux qui devraient permettre de construire ce site de missiles nucléaires. Et elles vont mettre en place aussi, donc comme je disais, tout un tas de manifs avec une grande créativité, des manières d'habiter les questions politiques tout autres que l'ont fait les hommes jusque-là. Et très rapidement aussi, elles décident de s'organiser sans hommes, parce qu'elles ont l'impression qu'à chaque fois, ils vont rapporter une autre manière, un autre rapport à ces questions-là, et aussi assez vite des positions d'autorité et de pouvoir qui ne vont pas leur plaire. Donc très vite, elles vont s'organiser entre femmes qui n'ont pas l'habitude de s'organiser ensemble, et elles vont avoir un mouvement massif comme ça, donc au début des années 80. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était un bel exemple de comment il faut écouter ces émotions-là, ne pas les refouler, et comment elles peuvent être aussi une manière... de prendre conscience de notre attachement au monde, et ensuite de se lier pour agir sur le monde. Et je voulais lire une petite citation d'un bouquin que je vous conseille de lire, qui parle de cette histoire, de comment les femmes de Greenham nous apprennent qu'il n'y a pas de résistance sans pressentiment de la menace qui guette. Il n'y a pas de révolte sans attachement. Seul le chagrin et la peur de perdre ce qui est cher peuvent susciter la colère et la conviction que la lutte est nécessaire. Voilà, ça c'est une petite citation donc d'un bouquin qui raconte cette histoire qui s'appelle « Des femmes contre des missiles » et qui est paru aux éditions Sorcières chez Cambourakis. Et je vous conseille vivement de lire ce livre, voilà, qui est très inspirant. Voilà, j'ai beaucoup parlé, vous laissez peu de place à vos interventions.
Non, mais c'est parfait. Enfin, il faut dire aussi qu'on est un peu ramolli après nos deux heures d'émission, mais non, oui. Mais à part ça, c'était très clair.
Bon, en tout cas, moi, j'ai pas lu ce livre, mais ça me donne un peu envie de le lire. Du coup, c'est cool.
Ouais. Ouais, c'est un texte qui a beaucoup inspiré la pensée écoféministe. Et du coup, voilà, je vous invite à vous renseigner un peu sur ce mouvement à la fois féministe et écologique qui se renouvelle beaucoup ces dernières années.
Bah, merci beaucoup.
Ouais.
À bientôt.
Eh ben ouais, à bientôt. Salut.
Salut.
Moi, je me dis en l'écoutant que... Enfin, ça me touche ce truc de dire, en fait, c'est depuis la peur et depuis la tristesse que naît aussi la révolte et la colère, quoi.
Bah ouais.
Simplement, c'est un peu difficile en ce moment de faire le lien entre des peurs qu'on pourrait avoir et des manières de... Enfin, contre qui tourner notre colère et comment la tourner, quoi. Et en tout cas, ce que ça me fait dire, c'est que c'est sûr que c'est pas en taisant ce qu'on ressent et en déniant ces sentiments-là qu'on peut les transformer en une charge politique, quoi. Donc certainement qu'il faut les mettre sur la table, il faut en discuter avec les autres pour savoir comment avancer, quoi. Mmh. Et autant, bon, la peur de la mort, la peur de perdre des proches, la peur de la maladie, c'est des choses qui vont être difficiles pour le moment à transformer en lutte politique. Autant, moi, je sais que l'autre très grande peur que j'ai en ce moment, c'est l'autoritarisme qui est en train de prendre le pouvoir et la société de surveillance qui est en train de se développer. Et ça, certainement, ça part déjà d'une angoisse, d'un malaise, de quelque chose qu'on ne sait pas très bien nommer. Et du coup, voilà, profitez-en pour en parler avec les gens qui sont autour de vous. Enfin, faisons que ça sorte pour savoir quoi en faire, même si pour l'instant, on est un peu encore des... Je sais pas comment dire, quoi.
Même si on sait pas trop comment réagir là.
Ouais.
Si on peut transformer cette peur en quelque chose, c'est cool, quoi.
En tout cas, elles, les écoféministes de cette époque-là, elles ont vraiment réussi à en faire une force un peu magique, quoi. Il y avait vraiment des espèces de processus de se dire les peurs, de les crier, de les hurler et de trouver là-dedans une forme de puissance qui va les porter à agir ensuite sur le monde, quoi.